En 1819, vers le commencement de la soirée, au milieu du mois de novembre, la grande Nanon alluma du feu pour la première fois. L'automne avait été très beau. Ce jour était un jour de fête bien connu, des cruchotins et des grassinistes. Aussi, les six antagonistes se préparaient-ils à venir armés de toutes pièces pour se rencontrer dans la salle et s'y surpasser en preuve d'amitié. Le matin, tous au mur avaient vu Madame et Mademoiselle Grandet, accompagnée de Nanon, se rendant à l'église paroissiale pour y entendre la messe. Et chacun se souvint que ce jour était l'anniversaire de la naissance de Mademoiselle Eugénie. Le matin, M. Grandet, suivant sa coutume pour les jours mémorables de la naissance et de la fête d'Eugénie, était venu la surprendre au lit et lui avait solennellement offert son présent paternel, consistant depuis 13 années en une curieuse pièce d'or. Madame Grandet donnait ordinairement à sa fille une robe d'hiver ou d'été, selon la circonstance. Ces deux robes, les pièces d'or qu'elle récoltait au premier jour de l'an et à la fête de son père, lui composaient un petit revenu de 100 écus environ, que Grandet aimait à lui voir entasser. N'était-ce pas mettre son argent d'une caisse dans une autre et, pour ainsi dire, élever à la brochette l'avarice de son héritière à laquelle il demandait parfois compte de son trésor ? Autrefois grossi par les la Bertelière en lui disant « Ce sera ton douzain de mariage. » Le douzain est un antique usage encore en vigueur et saintement conservé dans quelques pays situés au centre de la France. En Berry, en Anjou, quand une jeune fille se marie, sa famille ou celle de l'époux doit lui donner une bourse où se trouvent, suivant les fortunes, 12 pièces ou 12 douzaines de pièces ou 1200 pièces d'argent ou d'or. La plus pauvre des bergères ne se marierait pas sans son douzain, ne fût-il composé que de gros sous. Pendant le dîner, le père, tout joyeux de voir son Eugénie plus belle dans une robe neuve, s'était écrié « Puisque c'est la fête d'Eugénie, faisons du feu, ce sera de bon augure. » « Mademoiselle se mariera dans l'année, c'est sûr, » dit la grande Nanon en remportant les restes du noix. « Je ne vois point de parti pour elle à Saumur. » répondit Madame Grandet en regardant son mari d'un air timide, qui, vu à son âge, annonçait l'entière servitude conjugale sous laquelle gémissait la pauvre femme. Grandet contempla sa fille et s'écria gaiement « Elle a 23 ans aujourd'hui, l'enfant. Il faudra bientôt s'occuper d'elle. » Eugénie et sa mère se jetèrent silencieusement un coup d'œil d'intelligence. Madame Grandet était une femme sèche et maigre, jaune comme un coin, gauche, lente, une de ces femmes qui semblaient faites pour être tyrannisées. Elle avait de gros os, un gros nez, un gros front, de gros yeux et offrait au premier aspect une vague ressemblance avec ses fruits cotonneux qui n'ont ni saveur ni suc. Ses dents étaient noires et rares, sa bouche était ridée et son menton affectait la forme dite en galoche. C'était une excellente femme, une vraie la Bertelière. L'abbé Cruchot savait trouver quelque occasion de lui dire qu'elle n'avait pas été trop mal, et elle le croyait. Une douceur angélique, une résignation d'insectes tourmentés par des enfants, une piété rare, une inaltérable égalité d'âme, un bon cœur la faisait universellement plaindre et respecter. Quoique ridicule en apparence, cette femme qui, par sa dot et ses successions, avait apporté au père Grandet plus de 300 000 francs, s'était toujours sentie si profondément humiliée d'une dépendance et d'un illotisme contre lequel la douceur de son âme lui interdisait de se révolter, qu'elle n'avait jamais demandé un sou, ni fait une observation sur les actes que Maître Cruchot lui présentait à signer. Cette fierté sotte et secrète, cette noblesse d'âme constamment méconnue et blessée par Grandet, dominait la conduite de cette femme. Madame Grandet mettait constamment une robe de levantine verdâtre qu'elle s'était accoutumée à faire durer près d'une année. Elle portait un grand fichu de cotonnade blanche, un chapeau de paille cousue et gardait presque toujours un tablier de taffetas noir. Sortant peu du logis, elle usait peu de souliers. Enfin, elle ne voulait jamais rien pour elle. Aussi Grandet, saisi parfois d'un remords en se rappelant le long temps écoulé depuis le jour où il avait donné 6 francs à sa femme, stipulait-il toujours des épingles pour elle en vendant ses récoltes de l'année. Les 4-5 louis offerts par le Hollandais ou le Belge acquéreur de la vendange Grandet formaient le plus clair des revenus annuels de Madame Grandet. Mais quand elle avait reçu ses 5 louis, son mari lui disait souvent « comme si leur bourse était commune. « As-tu quelques sous à me prêter ?» Et la pauvre femme, heureuse de pouvoir faire quelque chose pour un homme que son confesseur lui représentait comme son seigneur et maître, lui rendait dans le courant de l'hiver quelques écus sur l'argent des épingles. Lorsque Grandet tirait de sa poche la pièce de 100 sous allouée par mois pour les menues dépenses, le fil, les aiguilles et la toilette de sa fille, il ne manquait jamais, après avoir boutonné son gousset, de dire à sa femme « Et toi, la mère, veux-tu quelque chose ?»« Mon ami, répondait Madame Grandet, animée par un sentiment de dignité maternelle, nous verrons cela. » Sublimité perdue, Grandet se croyait très généreux envers sa femme. Après ce dîner, où pour la première fois il fut question du mariage d'Eugénie, Nanon alla chercher une bouteille de cassis dans la chambre de Monsieur Grandet et manqua de tomber en descendant. « Grande bête !» lui dit son maître. « Est-ce que tu te laisserais choir comme une autre, toi ?»« Monsieur, c'est cette marche de votre escalier qui ne tient pas. »« Elle a raison, » dit Madame Grandet. « Vous auriez dû la faire accommoder depuis longtemps. Hier, Eugénie a failli s'y fouler le pied. »« Tiens !» dit Grandet à Nanon en la voyant toute pâle. « Puisque c'est la naissance d'Eugénie et que tu as manqué de tomber, prends un petit verre de cassis pour te remettre. »« Ma foi, je l'ai bien gagné, » dit Nanon. « À ma place, il y a bien des gens qui auraient cassé la bouteille. Mais je me serais plutôt cassé le coude pour la tenir en l'air. »« C'te pauvre Nanon !» dit Grandet en lui versant le cassis. À ce moment, les trois Cruchot frappèrent à la porte. « C'est-y vous, monsieur Cruchot ?» demanda Nanon en regardant par la petite grille. « Oui, » répondit le président. Nanon ouvrit la porte et la lueur du foyer qui se reflétait sous la voûte permit aux trois Cruchot d'apercevoir l'entrée de la salle. « Ah, vous êtes des fêteux !» leur dit Nanon en sentant les fleurs. « Excusez, messieurs !» cria Grandet en reconnaissant la voix de ses amis. « Je suis à vous !» Madame et Mademoiselle Grandet se levèrent. Le président, profitant de l'obscurité, dit alors à Eugénie « Me permettez-vous, mademoiselle, de vous souhaiter aujourd'hui que vous venez de naître une suite d'années heureuses et la continuation de la santé dont vous jouissez ?» Il offrit un gros bouquet de fleurs rares à Saumur, puis serrant l'héritière par les coudes, il l'embrassa des deux côtés du cou, avec une complaisance qui rendit Eugénie honteuse. Le président, qui ressemblait à un grand clou rouillé, croyait ainsi faire sa cour. « Ne vous gênez pas, » dit Grandet en rentrant. « Comme vous y allez les jours de fête, monsieur le président ?»« Mais avec mademoiselle, » répondit l'abbé Cruchot, armé de son bouquet, « tous les jours seraient pour mon neveu des jours de fête. » L'abbé baisa la main d'Eugénie. Quant à maître Cruchot, il embrassa la jeune fille tout bonnement sur les deux joues et dit « Comme ça nous pousse, ça, tous les ans 12 mois !» L'abbé Cruchot, petit homme dodu, grassouillet, à perruque rousse et plate, à figure de vieille femme joueuse, dit en avançant ses pieds bien chaussés dans de forts souliers à agrafes d'argent. « Les des Grassins ne sont pas venus ?»« Pas encore, » dit Grandet. « Mais doivent-ils venir ?» demanda le vieux notaire en faisant grimacer sa face trouée comme une écumoire. « Je le crois, » répondit Madame Grandet. « Vos vendanges ont-elles fini ?» demanda le président de bon fond à Grandet. « Partout !» lui dit le vieux vigneron en se levant pour se promener de long en long dans la salle et se haussant le thorax par un mouvement plein d'orgueil comme son mot, partout. Par la porte du couloir qui allait à la cuisine, il vit alors la grande Nanon, assise à son feu, ayant une lumière et se préparant à filer là pour ne pas se mêler à la fête. « Nanon, » dit-il en s'avançant dans le couloir, « veux-tu bien éteindre ton feu, ta lumière et venir avec nous ?» « Par Dieu, la salle est assez grande pour nous tous. »« Mais monsieur, vous aurez du beau monde. »« Ne les vaux-tu pas bien ? Ils sont de la côte d'Adam, tout comme toi. » Grandet revint vers le président et lui dit « Avez-vous vendu votre récolte ?»« Non, ma foi, je la garde. Si maintenant le vin est bon, dans 2 ans, il sera meilleur. Les propriétaires, vous le savez bien, se sont jurés de tenir les prix convenus et cette année, les Belges ne l'emporteront pas sur nous. »« S'ils s'en vont ?» « Eh ben, ils reviendront. Oui, mais tenons-nous bien !» dit Grandet d'un ton qui fit frémir le président. « Serait-il en marché ?» pensa Cruchot. En ce moment, un coup de marteau annonça la famille des Grassins. et leur arrivée interrompit une conversation commencée entre Madame Grandet et l'abbé. Madame des Grassins était une de ces petites femmes vives, dodues, blanches et roses, qui, grâce au régime claustral des provinces et aux habitudes d'une vie vertueuse, se sont conservées jeunes encore à 40 ans. Elles sont comme ces dernières roses de l'arrière-saison, dont la vue fait plaisir mais dont les pétales ont je ne sais quelle froideur et dont le parfum s'affaiblit. Elle se mettait assez bien, faisait venir ses modes de Paris, donnait le ton à la ville de Saumur et avait des soirées. Son mari, ancien quartier-maître de la garde impériale, grièvement blessé à Austerlitz et retraité, conservait malgré sa considération pour Grandet l'apparente franchise des militaires. « Bonjour Grandet, dit-il au vigneron en lui tenant la main et affectant une sorte de supériorité sous laquelle il écrasait toujours les cruchots. « Mademoiselle, dit-il à Eugénie, après avoir salué Madame Grandet, vous êtes toujours belle et sage. Je ne sais en vérité ce que l'on peut vous souhaiter. » Puis il présenta une petite caisse que son domestique portait et qui contenait une bruyère du Cap, fleur nouvellement apportée en Europe et fort rare. Madame des Grassins embrassa très affectueusement Eugénie, lui serra les mains et lui dit « Adolphe s'est chargé de vous présenter mon petit souvenir. » Un grand jeune homme blond, pâle et frêle, ayant d'assez bonnes façons, timide en apparence mais qui venait de dépenser à Paris, où il était allé faire son droit, 8 ou 10 000 francs en sus de sa pension, s'avança vers Eugénie, l'embrassa sur les deux joues et lui offrit une boîte à ouvrage dont les ustensiles étaient en vermeil. Véritable marchandise de pacotille malgré l'écusson sur lequel un EG gothique, assez bien gravé, pouvait faire croire à une façon très soignée. En l'ouvrant, Eugénie eut une de ces joies inespérées et complètes qui font rougir, tressaillir, trembler d'aise les jeunes filles. Elle tourna les yeux sur son père, comme pour savoir s'il lui était permis d'accepter, et M. Grandet dit « Prends, ma fille !» dont l'accent eut illustré un acteur. Les trois cruchots restèrent stupéfaits en voyant le regard joyeux et animé lancé sur Adolphe des Grassins par l'héritière à qui de semblables richesses parurent inouïes. Madame des Grassins jeta les yeux sur les bocaux bleus où étaient les bouquets des cruchots, en cherchant leur cadeau avec la bonne foi jouée d'une femme moqueuse. Dans cette conjoncture délicate, l'abbé Cruchot laissa la société s'asseoir en cercle devant le feu et alla se promener au fond de la salle avec Grandet. Quand ces deux vieillards furent dans l'embrasure de la fenêtre la plus éloignée des Grassins, « Ces gens-là, dit le prêtre à l'oreille de l'avare, jettent l'argent par les fenêtres. « Qu'est-ce que cela fait s'il rentre dans ma cave ? Répliqua le vigneron. « Si vous vouliez donner des ciseaux d'or à votre fille, vous en auriez bien le moyen, dit l'abbé. « Je lui donne mieux que des ciseaux, répondit Grandet. « Mon neveu est une cruche, pensa l'abbé en regardant le président dont les cheveux ébouriffés ajoutaient encore à la mauvaise grâce de sa physionomie brune. Ne pouvait-il inventer une petite bêtise qui eût du prix ? Nous allons faire votre partie, Madame Grandet, dit Madame des Grassins. Mais nous sommes tous réunis, nous pouvons 2 tables. Puisque c'est la fête d'Eugénie, faites votre loto général, dit le père Grandet. Ces 2 enfants en seront. L'ancien tonnelier, qui ne jouait jamais à aucun jeu, montra sa fille et Adolphe. Allons, Nanon, mets les tables. Nous allons vous aider, Mademoiselle Nanon, dit gaiement Madame des Grassins, toute joyeuse de la joie qu'elle avait causée à Eugénie. Je n'ai jamais de ma vie été si contente, lui dit l'héritière. Je n'ai rien vu de si joli nulle part. C'est Adolphe qui l'a rapporté de Paris et qui l'a choisi, lui dit Madame des Grassins à l'oreille. Va, va ton train, damnée intrigante, se disait le président. Si tu es jamais en procès, toi ou ton mari, votre affaire ne sera jamais bonne. Le notaire, assis dans un coin, regardait l'abbé d'un air calme en se disant « Les des Grassins ont beau faire, ma fortune, celle de mon frère et celle de mon neveu, monte en somme à 1 100 000 francs. » Les des Grassins en ont tout au plus la moitié et ils ont une fille. Ils peuvent offrir ce qu'ils voudront, héritière et cadeau. Tout sera pour nous un jour. À 8h30 du soir, 2 tables étaient dressées. La jolie Madame des Grassins avait réussi à mettre son fils à côté d'Eugénie. Les acteurs de cette scène pleine d'intérêt, quoique vulgaire en apparence, munis de cartons, bariolés, chiffrés, et de jetons en verre bleu, semblait écouter les plaisanteries du vieux notaire qui ne tirait pas un numéro sans faire une remarque. Mais tous pensaient aux millions de Monsieur Grandet. Le vieux tonnelier comptait vaniteusement les plumes roses, la toilette fraîche de Madame des Grassins, la tête martiale du banquier, celle d'Adolphe, le président, l'abbé, le notaire, et se disait intérieurement « Ils sont là pour mes écus. Ils viennent s'ennuyer ici pour ma fille, et ma fille ne sera ni pour les uns ni pour les autres. Et tous ces gens-là me servent de harpon pour pêcher. » Cette gaieté de famille dans ce vieux salon gris, mal éclairé par deux chandelles, ces rires accompagnés par le bruit du rouet de la grande Nanon, et qui n'était sincère que sur les lèvres d'Eugénie ou de sa mère, cette petitesse jointe à de si grands intérêts, cette jeune fille qui, semblable à ces oiseaux victimes du haut prix auquel on les met et qu'ils ignorent, se trouvait traquée, serrée par des preuves d'amitié dont elle était la dupe, tout contribuait à rendre cette scène tristement comique. Les doux sentiments de la vie n'occupaient là qu'une place secondaire. Ils animaient trois cœurs purs, ceux de Nanon, d'Eugénie et de sa mère. Encore combien d'ignorance dans leur naïveté. Eugénie et sa mère ne savaient rien de la fortune de Grandet. Elles n'estimaient les choses de la vie qu'à la lueur de leurs pâles idées et ne prisaient ni ne méprisaient l'argent accoutumées qu'elles étaient à s'en passer. Leurs sentiments, froissés à leur insu mais vivaces, le secret de leur existence en faisait des exceptions curieuses dans cette réunion de gens dont la vie était purement matérielle.